Bonjour à tous, un grand merci à l'équipe Louange pour ce bon moment, ce moment émouvant aussi à prier pour les mamans. Ça tombe bien parce qu'il n'en sera pas du tout question dans le message ce matin. Donc merci Elisabeth d'avoir assumé cette partie-là. J'aime bien faire des liens, mais là, j'avoue que j'en ai pas. Ce matin, nous poursuivons notre série dans le livre des Actes avec cette idée, ce titre qui nous aide à parcourir le livre « La mission de l'Église ». Et ce matin, on va s'intéresser à un groupe en particulier dans l'Église qui permet à l'Église d'accomplir sa mission. Un petit groupe de l'Église. Ce groupe, ce sont les anciens. Alors, petite précision pour peut-être ceux et celles qui ne sont pas trop habitués à ce terme « ancien ». Dans la Bible, « ancien » ne signifie pas là la personne qui s'agite avec sa canne pour essayer d'exhorter les uns et les autres. On appelle « ancien » dans la Bible les personnes qui sont chargées de la conduite spirituelle de l'Église. En un autre mot, les responsables. Et on a quatre anciens actuellement dans notre Église, Fabrice, Fred, Jean-Pierre, moi-même en tant que pasteur. Et donc c'est de ces personnes-là dont il est question quand on parle d'anciens et attribués, appliqués à notre Église. Alors en entendant que c'est ça le titre du message de ce matin, vous dites peut-être qu'il aurait mieux valu un message sur la fête des mères, parce qu'au moins ça parle à tout le monde, tandis que là, la mission des anciens, c'est 3-4 personnes dans une assemblée, on ferait mieux de faire ça uniquement avec eux, et puis de parler de choses qui concernent le reste de l'Église. Et j'aurais assez naturellement ce même réflexe, mais j'ai lu ces dernières semaines un article qui m'a convaincu du contraire. Un article qui incite à voir justement ce type de réflexion, de message, comme quelque chose que toute l'Église doit entendre. Et je dois beaucoup à cet article d'ailleurs dans les réflexions de ce matin. Ça tombe bien puisque je suis un des premiers concernés par l'application du message, donc ce n'est pas que mes propres réflexions. Et puis aussi, en réfléchissant, je me suis dit, si peut-être vous nous rejoignez ce matin, ou vous n'êtes pas encore très familier avec les réflexions d'une église, en fait, on ne fait jamais ça ailleurs dans la vie. Vous avez déjà vu une entreprise qui réunit tous ses salariés et qui dit, maintenant, on va s'imposer la question, c'est quoi être un bon chef? Ben non, on ne le fait pas. Et c'est ça le propre aussi d'une église, c'est de dire que l'autorité dans l'église, même si elle est confiée à certains, elle n'est pas un privilège ou un monopole, c'est ensemble, finalement, que nous allons réfléchir à comment l'appliquer. Voilà différentes raisons pour lesquelles on peut se dire que c'est finalement une bonne idée de tous ensemble nous placer devant la parole pour réfléchir à ce que cela implique. D'une part, parce que le faire devant toute l'assemblée, c'est solennel pour les anciens, ça met encore plus de poids à ce qu'on va dire, un peu comme des mariés, quand tout d'un coup disent leurs promesses devant tout un groupe, ça a du poids de faire cela. Ensuite, parce qu'il est essentiel qu'on soit d'accord à ce que cela implique, justement, comme mission d'être ancien, parce que c'est l'Église qui reconnaît les anciens pour elle-même. Et enfin, parce que la nature de la mission des anciens a des conséquences sur tous les membres. C'est ce que je viens de dire. En fait, on va vivre ensemble cette charge de conduire l'Église. On pourrait dire que la mission des anciens doit être comprise de tous pour que toute l'Église puisse accomplir sa mission. La mission des anciens doit être comprise de tous pour que toute l'Église puisse accomplir sa mission. Et donc je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Actes. Nous allons lire à partir du chapitre 20, les versets 13 à 36. C'est là où nous en étions restés il y a 2 semaines et le texte sera projeté pour ceux qui préfèrent suivre dans ma version. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se retrouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Jusque-là, la parole de Dieu ce matin. Ce matin, à partir de ce texte, nous allons voir 3 caractéristiques de la mission des anciens que toute l'Église a besoin d'entendre. Et la première chose qui ressort de notre texte, c'est que les anciens ont une mission de transmission par le contenu, par le modèle. C'est le fondement même de leur mission. Alors commençons par l'idée du contenu, c'est sans doute celle qui nous est le plus familier ou la plus évidente. Voici quelques éléments de ce que Paul dit. Vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance en Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et un peu plus loin, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul a enseigné. Il a enseigné tout ce qui était utile. Et tout ce qui est utile, toujours plus particulièrement selon Paul, c'est ce qui conduit à la repentance, à la conversion, à la foi, à l'attachement au Seigneur. Paul a enseigné et il demande aux anciens d'Éphèse à leur tour d'enseigner. Pourquoi ? Parce que la vie d'une église n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des faux enseignements qui s'insinue, pas toujours du haut de la chair, hein, dans nos propres réflexions, influencées par le monde dans lequel on vit, il y a des faux enseignements qui sont susceptibles de détourner les disciples de la foi véritable. Et la mission des responsables de l'Église, des anciens, c'est de transmettre la foi par l'enseignement de son contenu, afin d'équiper justement les disciples à résister à ces manières pernicieuses de penser dans notre monde. Alors en disant cela, probablement que immédiatement vous pensez à ce qu'on est en train de faire là, maintenant, la prédication du dimanche matin. Et Paul en parle, on pourrait l'associer là à ce qu'il dit quand il dit qu'il a enseigné en public. Mais il ne limite pas l'enseignement à ça. Il parle aussi d'enseignement dans les maisons. Il y a diverses formes d'enseignement dans l'Église. L'accompagnement en un, les visites, les groupes de maisons, les formations et la prédication, oui. Un responsable, un ancien n'enseigne pas forcément dans tous ses contextes, mais un ancien enseigne. Pardon. C'est le principe même de son ministère. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Alors en lisant ça, vous ne pouvez pas vous dire « Ok, c'est pour les anciens, donc irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, c'est pas pour moi. » Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une exhortation qui vaut pour tout chrétien. On l'a encore entendu ce matin à travers le fruit de l'esprit d'une autre manière. Par contre, en effet, capable, c'est le seul mot qui est lié à une capacité finalement dans ce verset d'enseigner, ça, ce serait le propre des responsables, des enseignants. Alors, ils enseignent quoi, ces anciens ? Tout le conseil de Dieu, c'est ce que nous avons lu dans le passage. Ça veut dire quoi, tout le conseil de Dieu ? Ça veut dire n'éviter aucun sujet. Par deux fois, dans son discours, Paul précise « sans rien vous cacher ». Enseigner toute la Bible, c'est parler de sexualité, d'enfer, de soumission aux autorités, d'argent, de justice sociale. Autant de sujets difficiles à aborder, qui ne vont pas toujours plaire quand on les aborde, mais que la Bible nous encourage, nous exhorte à enseigner. Pour les aborder, dans notre église à Farmoutier, on fait le choix de privilégier ce qu'on appelle la prédication suivie. C'est quoi la prédication suivie ? C'est l'idée qu'en fait, le pasteur ne se dit pas dans la semaine « Tiens, j'aimerais aborder tel thème », mais qu'on laisse finalement la Bible nous conduire vers les thèmes dont elle parle. C'est pour ça que ce matin, je me trouve à vous parler, à partir d'acte 20, de la question des anciens et des responsables d'église. Ce n'est pas mon choix de me dire « Ah oui, tiens, ça serait bien ». Des fois, on va quand même choisir des sujets, hein. Je ne le cache pas. Mais l'idée, c'est de se dire que, principalement, on veut se laisser conduire ainsi pour aborder, justement, tout le conseil de Dieu. Et pour préciser cette mission d'enseigner, voici ce que Paul ajoute au verset 26. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Je suis pur du sang de vous tous. Ouh, qu'est-ce que tu veux dire, Paul, avec ça ? Alors, c'est probablement une allusion à Ézéchiel 33, où Dieu compare Ézéchiel à un guetteur sur une ville. Et c'était quoi le rôle de ce guetteur ? Eh bien, c'était d'annoncer quand un ennemi se présentait aux portes de la ville, c'est lui qui devait sonner l'alerte. Et s'il ne le faisait pas, c'était lui le responsable, finalement, de ce que la ville ne s'était pas préparée à combattre, résister à l'ennemi. Par contre, s'il le faisait, il était pur, libéré de la responsabilité de ce qui allait se passer ensuite. Eh bien, l'analogie que Paul en fait, c'est qu'il l'utilise quelque part pour, justement, ceux qui enseignent dans l'Église. Avertir du danger qu'il y a à ne pas suivre le conseil de Dieu. Mais bien sûr, on ne peut obliger personne à le faire. Un contenu donc à transmettre, c'est le rôle des anciens. Mais dans le passage, finalement, ce sur quoi Paul insiste aussi, ce n'est pas uniquement l'idée de transmettre un contenu, mais une certaine manière de vivre. Paul est très conscient que sa manière de vivre est finalement la meilleure vitrine pour son ministère. Il est loin de l'idée « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Voilà comment il commence son discours. « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie ». Et à de nombreuses reprises dans ses lettres, Paul exhorte à suivre son modèle. « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le ». J'ai l'impression qu'un tel propos aujourd'hui pourrait paraître très orgueilleux. On se dit « Voilà, pour qui se prend lui ?» Mais si la personne est honnête avec ce qu'elle veut vivre, c'est surtout très engageant. Et c'est cela qu'il nous faut retenir en tout cas, quelle que soit notre manière de communiquer dans notre contexte actuel. C'est la manière de vivre qui parle peut-être le mieux de cette transmission de l'Évangile. Je peux avoir toute la connaissance du monde, si je ne vis pas ce que je sais de Dieu, je deviens un frein à cette transmission. Alors comment gérer cela pour des responsables qui sont tout autant pécheurs que les autres hommes et femmes d'une assemblée? Comment faire pour être irréprochable selon le verset d'un Timothée que nous avons lu tout à l'heure? Cela passe probablement d'abord en étant des modèles dans la recherche de la sanctification. Même s'ils n'y arrivent pas, c'est ce qu'ils désirent par-dessus tout. Cela passe aussi, sans doute, par une propension à la repentance, au fait d'assumer sans être dans l'auto-justification permanente. Je ne pense pas que le leadership biblique soit un parcours sans erreur, que ce serait ça la définition d'un bon leader chrétien. Par contre, je pense que cela passe par une capacité à assumer ses erreurs. J'aime beaucoup cette phrase, alors attention, c'est pas un théologien, hein, Johan Cruyff, footballeur, qui décrit ainsi la manière d'un footballeur, leader, la manière dont il devrait se comporter sur le terrain. Les joueurs qui ne sont pas de vrais leaders, mais qui essaient de l'être, blâment toujours les autres quand ceux-là font une erreur. Les vrais leaders sur le terrain assument déjà les erreurs à la place de ceux qui le feront. Alors, on ne peut probablement pas appliquer tout cela à l'Église, hein, l'idée, à un moment donné, il faut que les gens assument leurs erreurs, mais en tout cas, ça en dit long sur les qualités du leader à assumer les erreurs. Les anciens sont donc appelés à transmettre par le contenu de l'enseignement, par le modèle de leur vie. Qu'est-ce que cela implique pour l'Église? Je vous avais dit qu'on allait se poser cette question justement en se disant que ce n'est pas juste un message pour les anciens. Eh bien déjà s'assurer que c'est bien la Bible qui est le fondement de l'enseignement dans l'Église, de l'enseignement des responsables. Et puis ensuite, cultiver le bon réflexe. Quand on n'est pas d'accord avec ce qui est dit du haut de la chair ou dans un groupe, éviter le procès d'intention, mais plutôt aller regarder à la source et se demander « Mais est-ce bien ça ?» Que dit la Bible, puisque c'est cela que nous sommes appelés à faire, comme les chrétiens de Béret, examiner les Écritures. Et puis, ensemble, assumer le défi d'être irréprochable. C'est exigeant quand même d'être irréprochable. Alors on est tous appelés à être irréprochables, mais les anciens, les responsables, sont particulièrement exposés par rapport à cette question. Aidons-les à accomplir cela. En tant que membres d'Église, rappelons-nous que nos responsables sont chargés de veiller sur nos âmes. Acceptons de leur part les avertissements. C'est leur rôle, on vient de le lire dans la parole. Évitons le réflexe de nous mettre en mode défensive. Et je suis le premier concerné. Ah ouais, toi tu me dis ça. T'as vu ce que tu fais dans ta vie? Parce que t'es ancien, je peux me permettre. Non, mais je suis le premier à faire ça. Hein. Donc, mais voilà, il faut lutter contre cette tendance qu'on a. Tout de suite, quand on veut nous interpeller sur notre propre vie. Ah, voilà, c'est notre mode d'autodéfense. Eh ouais, et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça la question. Mais bien sûr, il faut que chacun, on se présente devant le Seigneur. Au contraire, accordons-leur la grâce, même lorsqu'ils sont blessants. Accordons-leur ce que j'appelle la présomption de bienveillance, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, ils veulent notre bien. Soyons patients avec eux, un fruit de l'esprit. Ils vont encore progresser et grandir dans leur caractère. Mais bien sûr, tout ce que nous disons là, ça n'enlève pas l'idée de dénoncer quand il y a aussi une faute, un péché avéré. Voilà pour le fondement de la mission des anciens. Transmettre l'évangile par l'enseignement et par la manière de vivre. Mais comment, sur quoi vont-ils s'appuyer pour ne pas dérailler? C'est la deuxième caractéristique. On peut repérer deux rails qui vont permettre aux responsables d'accomplir leur mission. La piété, la rail de gauche, l'intérêt pour les autres, faire passer l'intérêt des autres avant le leur, le rail de droit. Il est intéressant de constater dans le texte, pour ça que j'ai commencé la lecture avant le passage qui nous intéressait à plus proprement parler, que Paul, qui s'est rendu à Milet, a eu un passage où il a fait un petit bout, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de chemin tout seul par la terre, alors que les autres ont pris le bateau. Alors, c'est toujours difficile de faire parler le silence d'un texte, on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça, peut-être il a été obligé de le faire, on sait que les adversaires de l'évangile, les juifs, lui posaient souvent des embûches, et que parfois il devait changer ses plans. Est-ce que c'était une décision délibérée de sa part? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a eu à marcher, a priori plusieurs jours, seul avant cette rencontre avec les anciens d'Éphèse qu'il a convoqués à Milet. Et il y a fort à parier qu'au cours de cette marche, il n'a pas mis ses AirPods sur ses oreilles pour écouter sa musique préférée, pour que le temps passe plus vite. Le texte ne le dit pas, mais on peut imaginer qu'il a profité de ce temps pour un cœur à cœur avec Dieu. Un temps seul, dans la présence de Dieu, justement pour se préparer à ce moment où il voulait parler aux anciens d'Éphèse. Et puis là, le texte le dit de manière émouvante, la rencontre entre Paul et les anciens d'Éphèse s'est terminée dans la prière. La prière, le temps avec Dieu, le rail de gauche. Voilà ce qui devrait envelopper le ministère des anciens. Pas une prière formaliste qu'on fait vite à la fin d'une réunion pour dire « on l'a bien fait devant Dieu hein », mais une prière qui imbibe la mission des anciens. Vouloir faire des choses pour Dieu sans se connecter à lui, en fait c'est un piège pour tout chrétien. Mais probablement, plus particulièrement pour les responsables d'une église, il y a tellement de choses urgentes à faire, tellement de choses qui accaparent notre esprit. Et c'est quoi le réflexe quand on a des choses urgentes à faire? C'est d'enlever ce qui ne nous semble pas efficace, ce qui ne nous semble pas utile. Oula. Et là, je pense qu'à notre grande honte, on va vite se rendre compte que dans le pas utile se glissent nos temps de cœur à cœur avec Dieu, qui vont s'amoindrir au fur et à mesure qu'on a le plus de choses à faire. C'est le cas, malheureusement, aussi pour la responsable d'Église. J'aime beaucoup cette réflexion d'un pasteur. Je crois que je suis à blâmer. Je travaille plus que je ne prie. Je crois que je suis à blâmer. Je travaille plus que je ne prie. En fait, même les choses les plus urgentes ne devraient pas nous priver de notre temps d'intimité avec Dieu. Notre appel est d'accomplir, et ça c'est pour tout chrétien, hein, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous devons les accomplir avec ses forces et avec sa direction. La prière personnelle devrait donc précéder chacune des interventions, des visites, des messages, des réunions de conseil. Le ministère de responsable n'est rien sans l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous conduit. On est tellement influencés tous par le monde dans lequel on vit. Quelle prétention, hein, de penser qu'on va pouvoir faire les choses selon Dieu, sans prendre ce temps devant lui. Alors si vous vous demandez comment prier pour les responsables de l'Église, priez pour qu'ils soient des hommes de prière, des hommes de prière, afin qu'ils puissent accomplir leur ministère. La prière devrait donc envelopper le ministère des anciens. Mais il y a un deuxième rail qu'ils doivent suivre pour accomplir leur mission, faire passer l'intérêt des autres avant le leur. On le voit dans le passage, plus particulièrement dans le zèle que Paul exprime à se consacrer aux autres. Il a beaucoup travaillé. Hein. « Je n'ai cessé de vous exhorter jour et nuit avec larmes. » Mais l'idée de faire passer l'intérêt des autres avant le sien apparaît dans ce passage autour d'une question auquel je ne me serais pas attendu de prime abord, à travers la question financière. C'est intéressant. C'est là. On l'a au verset 33, il y a tout un passage, je ne vais pas tout relire, où il exprime « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Et il appuie cela sur un principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors Paul ne dit pas qu'il ne faut pas être soutenu financièrement pour son travail d'ancien ou de pasteur. Je serais mal sinon. Hein. Mais à chaque fois qu'il a jugé pertinent, alors justement, à chaque fois qu'il l'a jugé pertinent, on voit dans la vie de Paul qu'il s'est consacré entièrement à l'annonce de la parole de Dieu. Et c'est la plupart du temps dans son ministère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais considéré cela comme un dû, comme s'il n'y avait pas d'autre modèle de fonctionnement. C'est ce qu'il dit dans ce passage à Éphèse. C'est intéressant parce qu'il a souvent encouragé les chrétiens à réfléchir sur la place de l'offrande, de la générosité dans leur foi, et on aura l'occasion, je vous le rappelle, de parler de ça tout à l'heure, à la fin du culte, parce qu'on est face à une situation importante en tant qu'Église. Mais Paul a toujours veillé à ce que ça ne soit pas pour son propre gain. Il a toujours évité ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le conflit d'intérêts. Un principe doit guider sans cesse l'attitude d'un responsable, d'un ancien. Faire passer l'intérêt des autres avant le sien. Alors qu'est-ce que ça implique pour l'Église ? Comment veiller sur la santé spirituelle des anciens, des responsables ? Eh bien peut-être comme un peu plus tôt dans le livre des Actes, en acte 6, en les déchargeant d'un certain nombre de tâches. Malheureusement, dans la plupart des églises, les anciens, les responsables, sont confrontés à tout un tas de tâches de logistique, d'organisation, d'administration. Pas pour que les anciens se la coulent douce, mais pour qu'ils puissent justement n'avoir aucune excuse à ne pas passer ce temps avec Dieu quand ils veulent préparer des rencontres, des visites, des prédications. Et puis si vous voulez encourager les anciens à faire passer l'intérêt des membres avant les leurs, confiez-leur vos sujets de prière. Je suis un peu triste que dans l'église de Farmoutier, ce ne soit pas un grand réflexe. Je souvent découvre tout d'un coup des sujets pour lesquels j'aurais aimé prier. Mais c'est après. On peut encore prier après, heureusement, de voir ça rendu à Dieu. Je suis un peu triste que quand les anciens écrivent un petit SMS en disant « On va avoir une réunion d'anciens, si vous avez un sujet de prière, donnez-le nous. » Il n'y a pas beaucoup de réponses. Rassurez-vous, on prie quand même pour vous. Mais du coup, c'est nous qui choisissons les sujets. Hein. Ne privez pas les anciens de faire passer votre intérêt avant le leur. Confiez-leur vos sujets de prière pour qu'ils puissent prier pour vous. C'est aussi comme ça qu'ils vont développer leur amour pour vous. Après le fondement de leur mission, après ces principes directeurs, ces deux rails, passons maintenant aux exigences de la mission, le don de soi. Paul a commencé son discours d'adieu en parlant de larmes, d'épreuves dues à son ministère. Mais Paul n'est pas dupe, il n'est pas en train de se dire « ça a été dur, mais ouf !» Maintenant, ça va aller mieux. Il sait que ce n'est pas fini. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il sait qu'il va souffrir. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Et de la même façon, il prévient les anciens d'Éphèse. Votre ministère ne sera pas plus facile que le mien. Des loups surgiront parmi vous. Ouh là là, ça n'a pas dû être simple d'entendre ça pour les anciens. Vous imaginez, eux aussi, ils ont fait quelques jours de marche pour aller d'Éphèse à Milet, ensemble. Et là, tout à coup, Paul est en train de leur dire, des loups surgiront parmi vous. Ils ont dû se retrouver un peu dans la même situation que les disciples lors du dernier repas du Seigneur. Un traître est parmi vous en train de se regarder les uns les autres. Ah mais ça va être qui? Qui est-ce qui va nous conduire dans la mauvaise direction? De quelle manière on va être mis à l'épreuve par cela? Le ministère s'accompagne souvent de moments compliqués. Vraiment compliqués. Ah, attention, le ministère de responsable d'église est souvent rempli de joie. Ils sont souvent confrontés à... dès les premiers moments, à la conversion d'une personne, aux accompagnements au baptême. Pour moi, ce qui me procure le plus de joie, c'est quand des personnes que je sais passer par des moments extrêmement difficiles où on se dirait, ben, il y a toutes les raisons qui mettent leur foi de côté, on les voit tenir et désirer encore s'attendre à Dieu, tenir bon. Il me démontre par là que ce dont nous parlons, c'est vrai. Les responsables ont donc le privilège de vivre tout cela. Mais le ministère pastoral, ce sont aussi les mêmes situations en négatif. Vous accompagnez quelqu'un dans son engagement, et quelques mois plus tard, vous le voyez se détourner de la foi. Vous accompagnez quelqu'un qui vit une situation compliquée, et vous n'entendez que colère après Dieu, après l'Église, après vous. Heureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais la plupart des pasteurs que je connais ont été confrontés à ces situations. Essayer d'aider et se retrouver finalement la personne qui a tout fait capoter. Ces exigences du sacrifice personnel sont entières chez Paul. On l'entend dans ses versets. « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. » Quelle exigence. Pas facile de s'approprier ces paroles dans notre contexte. Hein. J'ai rarement été confronté à déjouer les embûches des adversaires de l'Évangile. C'était plutôt le pain quotidien de Paul. Mais l'idée de servir le Seigneur avant nous-mêmes fait sens, même dans nos contextes occidentaux. Il y a bien des situations où il serait beaucoup moins coûteux pour un responsable d'église de juste fermer les yeux, dire c'est pas bien grave, on va laisser passer, de chercher à plaire aux hommes. Éviter les confrontations. Vous savez, les responsables sont faits de la même pâte que tous les hommes. Hein. Ils préfèrent l'approbation à se mettre tout le monde à dos. Hein. C'est un fardeau pour un ancien d'entrer dans une situation où il va falloir confronter. Accepter le conflit. Mais c'est justement, j'ai envie de dire, l'exigence de la mission. Ne pas chercher d'abord à être populaire, mais à être fidèle au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on n'est pas populaire, on est fidèle au Seigneur. Hein. Mais ça veut dire ne pas viser d'être populaire, mais bien viser d'être fidèle au Seigneur. Alors encore une fois, si cette exigence définit particulièrement le ministère de responsable d'église, cela a aussi des implications pour toute l'église. Déjà dans la reconnaissance des anciens, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'église qui reconnaît les anciens. Sur quels critères allons-nous choisir, reconnaître le ministère d'un ancien par le vote? Parce qu'il est sympa? Parce qu'il est gentil? Parce que j'aime bien ce qu'il fait? Ou parce qu'il a les qualités bibliques pour accomplir son ministère. Parce que, en effet, je vois dans sa manière de faire qu'il cherche le bien de l'Église. Et puis, vous pouvez aussi prier une prière que l'on fait assez peu souvent. Je ne l'ai jamais faite avant de penser à cela. Hein. Priez pour que les anciens n'agissent pas à votre égard en ayant peur de perdre votre amitié. mais pour qu'ils aient le courage de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, parce que c'est la tâche que le Seigneur leur confie. Peut-être que c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, finalement, qui résume le mieux dans la Bible ce que la mission des anciens implique pour l'ensemble de l'Église. Et prenez bien en tête tout ce qu'on a dit avant de lire notamment la première partie du verset. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. Les anciens ont besoin de vous, de nos prières. Que Dieu les équipe pour la belle charge à laquelle il les appelle, qu'il protège leur famille, leur épouse, leurs enfants, parce que tout cela a aussi un poids sur eux. Prions pour la sagesse, prions pour la foi, prions pour un amour renouvelé pour l'Église. Amen.